Bruno Coleman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, docteur en économie appliquée. Alors la Vivaldi s'est fixé un objectif d'atteindre un taux d'emploi à 80% en Belgique d'ici 2030. Pour commencer, selon vous, cet objectif est-il atteignable ?
Écoutez, c'est une ambition qui est louable, mais qui, à mon avis, sera très difficile à atteindre, parce que, en tout cas pour le pays dans sa globalité, peut-être pas en Flandre, parce que nous avons différents problèmes d'inadéquation de l'offre et de la demande du travail. Et s'il est vrai qu'il y a un grand nombre de métiers en pénurie, et s'il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de chômeurs ou de personnes qui sont en arrêt de maladie de longue durée, il y a un problème de formation, il y a un problème d'adaptation, de recyclage des travailleurs, et donc on vivra, je crois, toujours une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc c'est un objectif qui me semble intéressant, certainement mobilisateur, mais difficile à atteindre.
Vous énumérez quelques problèmes. Est-ce que la Vivaldi s'est fixé plusieurs objectifs pour remédier à ces problèmes afin d'atteindre les 80% en 2030?
Mais il n'y a pas beaucoup de mesures qui ont été prises. La première qui devrait être mise en œuvre, c'est d'abord se concentrer absolument sur la formation, à commencer par les adolescents, parce que c'est le début, le démarrage dans la vie étudiantine et puis professionnelle qui va conditionner l'aptitude au travail et surtout l'envie du travail. Et donc, s'il y a un décrochage auprès d'un adolescent ou d'un jeune adulte, c'est un décrochage qui va perdurer sans doute pendant toute la vie professionnelle. Et puis d'autre part, il y a un autre problème, mais qui est tout à fait connu et rabâché, c'est le coût du travail, qui est trop important. Et donc, certains, comme la FGTB par exemple, préconisent le fait de baisser fortement la parafiscalité sur le travail pour simuler la mise à l'emploi. Je crois que c'est un pari ambitieux, mais qui doit être considéré, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir une mise à l'emploi extrêmement ambitieuse et en même temps ne pas être capable de changer les paramètres qui probablement sont à la base du fait qu'on n'atteint pas l'objectif.
Dans les chiffres, que cela signifierait dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui de remplir 80% de taux d'employabilité ?
Ça veut dire plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui seraient au travail. Et donc ça suppose d'avoir à peu près 400 000 personnes en plus donc qui soient employées. Et donc c'est un chiffre extrêmement important parce que ça veut dire que ça représente un peu moins de 10% de la force de travail. Le seul phénomène qui pourrait peut-être favoriser l'atteinte de l'objectif, mais ça me semble simplement une question de chiffres et pas de réalité, c'est que tous les baby-boomers, c'est-à-dire les personnes en démographie extrêmement importante qui sont nées après la guerre, arrivent progressivement à l'âge de la retraite, et que donc il y a un appel d'air pour les personnes plus jeunes. Mais ce n'est jamais que déplacer un problème, puisqu'en fait on va payer des pensions à la place éventuellement d'allocations de chômage ou d'allocations de sécurité sociale. Donc en fait le vrai problème se situe dans le court terme, c'est-à-dire la fiscalité, et dans le plus long terme, c'est en fait l'enseignement. Et c'est vrai que l'enseignement, quand on y réfléchit, c'est une question d'investissement à 20 ans ou à 30 ans, mais ça me fait toujours penser à ce qu'un général de Napoléon lui avait rétorqué quand Napoléon avait dit « planter des arbres le bord des routes, parce que comme ça les armées ennemies ne vont pas voir les armées en mouvement, nos armées en mouvement ». Et le général avait répondu « mais ça va mettre 20 ans avant que les arbres poussent ». Et Napoléon avait dit « ben raison de plus pour commencer maintenant ». Et donc ça veut dire qu'en fait en dissociant le problème du marché du travail des problèmes de l'enseignement, eh bien en fait on essaye de résoudre deux problèmes qui sont en fait liés mais sans en résoudre aucun des deux.
Il y a un facteur à prendre en compte d'autant plus aujourd'hui sur le marché du travail, c'est les malades longue durée, notamment au plan psychologique où on prête plus attention à cela. Quelle est leur position dans cet objectif des 80%?
Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce que d'abord les maladies de santé mentale sont peu reconnues, elles commencent à l'être. Mais je pense qu'on pourrait vraiment aborder ce problème si on avait une idée claire de savoir pourquoi il y a ce nombre de personnes qui sont en malade longue durée. Alors, on peut évidemment imaginer qu'il y a quelques profiteurs, il y en a toujours, mais cet argument n'est pas valide parce que je crois qu'il y a personne qui a envie d'être malade pour profiter. Il faut savoir pourquoi les gens sont malades. Et moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, la vie professionnelle pour certains est oppressante, est extrêmement épuisante, et je ne parle pas simplement de travaux manuels, mais aussi de travaux intellectuels, et qu'il arrive un moment où il y a un phénomène de bore-out ou de burn-out, c'est-à-dire que les personnes sont épuisées, ne sont plus capables finalement de gérer le rapport au travail. Et vous savez, on est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, le plus de somnifères, ça veut dire quand même que dans ce pays, il y a un problème, il y a un malaise, il y a une anxiété collective. Il faut d'abord y répondre pour pouvoir avoir une solution à ce grand nombre de malades de longue durée. Et moi, je crois que c'est véritablement un problème sociétal et qu'on devra un jour s'interroger sur le fait de savoir si la relation au travail, surtout pour les personnes qui sont les moins rémunérées, est saine telle qu'elle est organisée aujourd'hui.
Aujourd'hui, beaucoup de postes se numérisent. Allons-nous devoir créer de nouveaux métiers pour atteindre ces 80%?
La numérisation ne va peut-être pas détruire autant d'emplois qu'on l'imagine, encore que bien sûr certaines tâches disparaissent progressivement. Mais moi, ce qui m'inquiète finalement, c'est qu'on risque d'avoir une dichotomie entre les personnes qui sont capables de gérer la numérisation par leur formation, par leur intelligence, et les autres. Et on voit bien qu'il y a toute une série de métiers que j'appelle les métiers du dernier mètre, c'est-à-dire les personnes qui sont entre un système et la consommation d'un bien ou la prestation d'un service, qui sont des métiers extrêmement mal payés. Hein, ça va, et c'est un peu caricatural, mais ça va du chauffeur Uber ou chauffeur de taxi à l'infirmière, à la caissière, au livreur, au manutentionnaire. Ce sont des métiers où il faut quelqu'un qui utilise sa présence, sa force physique, mais comme on considère qu'en fait sa valeur est quasiment résiduelle parce qu'il est au bord de la transaction finale et que c'est un système qui sait mieux que lui, ce sont des métiers qui sont sous-payés. Et donc ça pose un problème parce qu'on a alors une société duale avec des gens bien payés, bien éduqués, et puis des personnes souvent moins bien formées qui ont de la peine à nouer les deux bouts. Et d'ailleurs, on l'a très très bien vu lors de l'explosion des coûts énergétiques, hein, qui immédiatement ont plongé à peu près 40 à 45% de la population belge dans un état peut-être temporaire de précarité financière. Donc il y a véritablement un problème de rémunération du travail et je pense qu'on va devoir revaloriser les travaux peut-être les plus élémentaires, mais en même temps les plus utiles.
Vous avez parlé de la crise énergétique. Justement, on se trouve dans une période économique très instable. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est quasiment impensable de pouvoir parvenir à ces 80% d'ici 2030.
Je crois aussi. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Et donc voilà, il faut vivre peut-être avec un totem, parce que parfois en politique il faut des totems. Mais souvent les totems commencent à être un peu décolorés par la pluie. On verra bien ce qu'il en reste dans 7-8 ans. Mais vous savez, c'est comme finalement les mesures que le gouvernement Michel avait mises en œuvre pour son tax shift. On se rend compte finalement que l'inflation a complètement gommé l'avantage. Et donc il faut être très prudent dans ses ambitions, mais je pense qu'au-delà du chiffre, ce qui est important, c'est de savoir comment on y arrive. Parce que c'est bien d'avoir une destination, mais encore faut-il connaître la route. Et donc c'est la route qui consistera à reformuler l'enseignement, à s'intéresser aux malheurs de longue durée, à se demander pourquoi il y a des inadéquations entre l'offre et la demande de travail qui vont permettre de régler le problème plutôt que des slogans.
Pour finir, la Vivaldi se calque beaucoup sur les Pays-Bas avec son taux supérieur à 81%, mais est-ce vraiment comparable avec la Belgique?
C'est-à-dire que quand on ramène le taux d'emploi au full-time equivalent, c'est-à-dire au travailleur à temps plein, on arrive quasiment au même pourcentage que la Hollande. Et en fait, ce qui est intéressant en Hollande, et on s'est connu depuis 25 à 30 ans, hein, c'est que la Hollande a décidé de donner plutôt du travail à tout le monde que des travaux à temps plein à tout le monde. Et donc ça a conduit au fait que beaucoup de personnes ont des travaux à mi-temps. Bon, c'est vrai qu'en Hollande, ça, comme en Allemagne d'ailleurs, ça a correspondu au fait que dans les sociétés protestantes, calvinistes ou luthériennes, les femmes étaient exclues de la vie professionnelle et que donc toute une série d'obstacles étaient mis pour les empêcher de travailler, comme par exemple ne pas avoir de crèche ou des crèches qui ne couvraient pas la totalité de la période d'une journée. Et donc ce sont essentiellement les femmes qui ont tiré profit de ces travaux à mi-temps. Mais en fin de compte, pourquoi pas? Parce que si on s'approche d'un système hollandais, ça suppose que le rapport au travail, qui est finalement structurant, ben, sera accessible au plus grand nombre. Et moi, je crois que c'est une solution intéressante, effectivement.
Bruno Coleman, je rappelle que vous êtes économiste, docteur en économie appliquée. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur sur ce que pense Bruno Coleman de cette envie du gouvernement belge d'avoir comme objectif d'avoir un taux d'emploi de 80% d'ici à 2030. 7h44 minutes, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Et donc à la une de nos quotidiens, mon cher Samuel, que trouvons-nous en ce 2 janvier?
Alors en Belgique, Le Soir consacre sa une au Covid, indiquant que l'Europe cherche une réponse commune, notamment après que plusieurs pays européens ont imposé des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Il faut noter qu'hier, un premier vol en provenance de Chine a atterri à Zaventem sans qu'aucun test ne soit imposé aux voyageurs. On trouve également à la une du Soir une photo du pape Benoît XVI, décédé samedi, avec le titre « Benoît XVI, modernisateur ».